Il est 7h48.
Le 7-9 sur France Inter.
Le débat éco, Benjamin Coriat, Dominique Seux, bonjour messieurs.
Bonjour.
Cela fait maintenant une semaine que les Britanniques ont décidé de quitter l'Union Européenne. On n'y voit pas franchement plus clair aujourd'hui, mais l'une des conséquences de ce vote de refus des Britanniques, on le pointait hier, c'est, on parlait d'euro bashing, et au fond la question qui va nous occuper ce matin, le débat, c'est l'Europe mérite-t-elle toute cette indignité? Dominique Seux,
eh bien écoutez, non, moi j'en ai un peu assez, franchement, évidemment il y a des, on y viendra largement, il y a des défauts, il y a des insuffisances, mais j'en ai vraiment assez que en permanence l'Europe soit coupable de tout. La récession, c'est l'Europe, les embouteillages, c'est l'Europe, le chômage, c'est l'Europe, l'éloignement des planètes, ça doit être l'Europe, le réchauffement, c'est l'Europe. Avant même de parler d'économie, rappelons quand même des choses toutes simples. L'Europe, c'est la tentative inédite dans l'histoire de 28 peuples, en l'occurrence de 27 maintenant, de se mettre autour d'une table et d'essayer de résoudre par des voies pacifiques un certain nombre de difficultés. Est-ce que vous connaissez dans le monde un autre ensemble de 28 États, qui représentent quand même 500 millions d'habitants, qui arrivent dans l'harmonie, difficile à dire, mais qui arrivent quand même à résoudre des problèmes. Parlons de valeurs. L'égalité homme-femme, si elle a progressé en Europe, c'est grâce à qui? C'est parce que l'Europe du Nord a une influence, et elle doit encore l'avoir, sur l'ensemble des Européens. Le réchauffement climatique, quel est le seul continent dans le monde qui a fait des progrès formidables? Bon, sur, alors on peut parler évidemment, les libertés individuelles, on parlait ce matin, les lanceurs d'alerte, etc. Quel est le continent au monde qui protège le mieux la liberté d'expression? Qui progresse le mieux ceux qui dénoncent les inégalités, etc. C'est l'Europe. Donc, il y en a un tout petit peu ras-le-bol. Et puis, on pourrait rajouter, évidemment, l'économie, le pouvoir d'achat. Depuis 30 ans, il s'est amélioré. Le ciel unique, et je parle même pas, parce que c'est une évidence, de la libre circulation des étudiants. Vous avez rappelé hier qu'Erasmus, c'est un programme européen. Donc, un tout petit peu assez. On va parler des insuffisances, etc. Mais ça suffit.
Il y en a. Benjamin Coriat.
Oui, moi je partagerai assez l'idée que l'Europe a été et toujours un magnifique projet et que c'est une grande responsabilité de nos politiques et de nous tous d'avoir tué ce rêve européen. Mais maintenant, il faut regarder les choses en face. On est en plein chaos. Et les raisons pour lesquelles nous sommes là sont quand même très importantes. Alors moi, je signalerai simplement comment l'Europe a été tout à fait incapable de répondre à deux chocs majeurs. Parce qu'il faut regarder les choses en face si on veut sauver le rêve européen. Et j'en suis. Mais je crois qu'il faut être réaliste. Premièrement, le premier choc, ça a été l'ouverture à l'Est et le traité de Nice, où les décisions institutionnelles qui ont été prises ont été catastrophiques. C'est-à-dire, ça a été ce qu'on a appelé à l'époque, vous vous souvenez sans doute, l'élargissement sans approfondissement. Et ça s'est traduit par quoi? D'ailleurs, sous influence de nos amis britanniques.
Absolument.
Ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par une concurrence accrue par le bas, une attaque sur les politiques sociales, sur les systèmes de protection sociale, et ça continue. Hein. Ça a été l'histoire du plombier polonais, maintenant c'est les travailleurs des etc. Donc, je veux dire, l'Europe est un beau rêve, mais si ce rêve n'est pas construit, il se transforme en cauchemar. Premier choc raté. Deuxième choc raté, la construction de l'euro. Ah, c'est incontestable que l'idée d'une monnaie unique était en elle-même effectivement une grande idée pour unifier les Européens, mais on a construit une monnaie unique sans les conditions qui la rendent possible, c'est-à-dire un minimum de politique budgétaire, un minimum
budgétaire,
d'harmonisation sociale, et surtout, parce que ça c'est quand même le plus important, on a construit une monnaie unique avec un article 125 qui est une clause de non-solidarité en cas de difficulté. Ceci s'est traduit par le fait que quand les difficultés sont venues, parce qu'avec une monnaie unique, on a forcément des chocs très asymétriques. Hein, si la Grèce et l'Allemagne ont la même monnaie et qu'il n'y a pas de transfert, ça finit très mal. Qu'est-ce qu'on a fait? Non seulement la non-solidarité, mais l'Europe s'est transformée en père fouettard. Le spectacle donné par l'Europe vis-à-vis de Tsipras et de la Grèce est un spectacle catastrophique qui est aujourd'hui, d'ailleurs, est payé. Alors, si on rajoute à ça l'absence de démocratie dans l'ensemble des décisions, l'opacité totale qui continue avec le traité budgétaire, avec la discussion sur le TAFTA, hein, aujourd'hui.
Oui, je pensais que vous alliez me parler du traité canadien qui...
Du traité canadien, absolument, sur lequel on vient d'apprendre que Juncker veut l'imposer, le traité de libre-échange avec le Canada, sans consulter les parlements. Bon, donc, oui pour le rêve européen, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut se donner les moyens de le construire de manière à ce qu'il puisse vivre.
Bon, une remarque d'abord purement formel. Si les Grecs avaient souhaité quitter l'euro, ils l'auraient dit. L'ont-ils
mais
dit
c'est pas le problème,
ils ne l'ont
ça.
Pas dit. Ils
c'est...
ne l'ont pas dit. Ils ont préféré. Ils ont considéré au total qu'il valait mieux être dedans que dehors.
Plus aujourd'hui,
la balance
d'ailleurs, hein, si vous
reste-t-elle La balance reste-t-elle globalement positive? Est-ce que on peut dire quand même que au total, si on met un certain nombre de valeurs et d'acquis, il reste supérieur aux difficultés que vous mentionnez, sur lesquelles on peut discuter. L'ouverture à l'Est, redisons les choses. L'ouverture à l'Est, oui, sur, et c'est les Britanniques qui sont en partie responsables puisqu'ils ont refusé la période de transition. D'accord, mais l'idée de départ, c'était quoi? On l'a déjà dit ici, l'idée de départ, c'était la libre circulation pour améliorer et encourager et faire monter le niveau de vie dans les pays ex-pays de l'Est. Mmh. Et quand on regarde les taux de pauvreté, par exemple, dont on parle en permanence, j'ai regardé hier, les taux, ce qu'on appelle alors les statisticiens, le taux de pauvreté matérielle, c'est-à-dire vous manquez d'un certain nombre de choses. Mmh. En Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, ça a baissé spectaculairement ces dernières années, depuis 10 ans. N'oublions pas ça quand même. Bon,
il y a eu des transferts massifs de fonds européens.
Il y a eu des transferts vers la Grèce, y compris. Est-ce que vous savez que les transferts, la façon dont l'Union européenne a aidé par exemple la Tunisie, c'est même pas 5% de ce qui a été fait par la Grèce. Vous vous rendez compte de ça? Donc arrêtons quand même de nous taper sur la tête. Les traités budgétaires, vous dites l'austérité. Ok, l'austérité. Est-ce qu'il y a encore de l'austérité aujourd'hui globalement dans la zone euro? Non. Les politiques budgétaires sont légèrement expansives aujourd'hui.
Donc arrêtons aussi de dire n'importe quoi,
renvoyant ce sont les États qui passent leur temps.
On s'arrête 30 secondes là-dessus, Benjamin Coriat, sur ce que vient de dire Dominique Seux, parce que c'est un argument souvent entendu dans le débat public français. La politique austéritaire imposée par l'Union européenne ou l'Europe allemande, etc. Il a raison, Dominique, ou pas? L'austérité, c'est fini?
Il a que très partiellement raison, et je vais dire pourquoi. D'abord parce que nous sommes en dehors du traité budgétaire. Je rappelle que le traité budgétaire est à une indication de 0% de déficit. Hein, parce que la grande intelligence de l'Europe, lorsqu'elle a constaté que la limite des 3% n'était pas atteignable, a été de dire « Ok, maintenant on fait un traité à 0% et on vous oblige à revenir à 0%. » Donc si on y est, c'est pas grâce à l'Europe, c'est malgré elle. Il faut être extrêmement clair là-dessus. Deuxièmement, dans le cas de la France, par exemple, mais on pourrait prendre d'autres pays, c'est vrai qu'on est au-dessus des 3%, mais pourquoi? Parce qu'on a transféré massivement de l'argent aux entreprises et que pour les autres, les collectivités locales, les classes moyennes, etc., on a prélevé. Donc, on est dans une situation paradoxale qui est que globalement, on n'est pas à 0%. Et heureusement, ce qui montre bien que le traité était mal foutu, d'une part, mais d'autre part, ça n'empêche pas que vis-à-vis des défavorisés, on a une situation d'austérité. C'est les entreprises qui se portent bien, c'est elles qui en démarrent. Donc si vous voulez, la manière dont les choses sont construites ne va pas. Alors, juste un tout petit mot.
Il y a un dernier mot, parce que
les valeurs dont parle Dominique, c'est pas des valeurs de l'Union européenne, c'est des valeurs de l'Europe. Et je veux dire, sans Union européenne, ces valeurs perdureraient. Bien. Donc, la question de la construction institutionnelle demeure.
Dire, avec ce discours, vous allez finir par tuer le bébé. Franchement, l'eau du bain, etc.
Non, je ne suis pas de ceux qui veulent tuer le bébé, mais je suis pour le sauver. Pour le sauver, il faut la
Bible.
Pour le sauver, il faut la Bible.
En attendant, on doit fermer la salle de bain. Merci, Dominique Seux, Benjamin Coriat, car un hommage important va être rendu à présent. Il est 8h moins 3.